Bonjour Chloé Lefrince.
Bonjour, bonjour à tous.
Il était une fois un mot, c'est le mot de la semaine, vous y reviendrez donc tous les samedis matins. La présidente du Brésil cette semaine, Dilma Rousseff, a été destituée après plusieurs mois de procédures judiciaires et politiques. C'est donc le mot destitution qui va vous occuper. Le mot destitution qui est en fait un terme juridique très ancien, Chloé.
Oui, alors si je fais un peu d'archéologie juridique, le mot destitution figure déjà dans le droit canonique et dans le droit romain, qui sont en fait les deux grands laboratoires de notre droit constitutionnel moderne. Mais attention, lorsqu'on parle alors de destitution, il est en fait plutôt question de révocation, hein, et ce jusqu'au milieu du XIVe siècle. Denis Barranger, dont vous trouverez l'interview nourrie d'archives sur franceculture.fr, rappelle que c'est dans l'Angleterre médiévale qu'émerge vraiment la notion de destitution, impeachment en anglais dans le texte. Concrètement, une procédure qui sanctionne la haute trahison, mais gare au contresens, hein, trahison contre le roi et pas le contraire. C'est à partir du XVIIe siècle que l'impeachment devient une prérogative des élus du peuple. La Chambre des communes accuse, la Chambre des lords juge. C'est toujours le cas aux États-Unis ou au Brésil. C'est à ce moment-là qu'émerge un début de responsabilité politique. L'impeachment sanctionne toujours la haute trahison, mais peut désormais viser un ministre en infraction. Un pas vers l'état de droit, sauf que la destitution est alors souvent utilisée dans des conflits de nature politique. Le problème, c'est l'absence de preuves. Un ministre peut par exemple être destitué parce qu'on juge qu'il a mal négocié un traité. Les pères fondateurs de la Constitution américaine, davantage imprégnés des Lumières, en tiendront compte en 1787. Le président américain, contrairement au roi d'Angleterre, peut mal faire et donc peut être destitué. Motif de l'impeachment, nouvelle version. Toujours la trahison, mais aussi la corruption ou cette catégorie un peu fourre-tout de crimes et délits. En fait, les contours de la destitution sont définis au coup par coup via des articles d'accusation qui précisent à chaque fois ce qu'on reproche au président. Des présidents américains sous le coup d'un impeachment, il y en eut trois. Johnson, 1868, Nixon, 73-74 et Clinton dans l'affaire Lewinsky en 98-99. En commun pour ces trois cas, le fait qu'ils jugent d'abord une brèche dans le lien de confiance entre le président et son peuple. On retrouve en creux l'esprit de John Locke qui irrigue le droit américain et qui explique par exemple les poursuites contre Clinton, pas tant pour ses relations sexuelles extra-conjugales que pour le fait d'avoir menti devant un grand jury. En France, à l'inverse, la destitution reste longtemps hermétique à cette notion morale. La Constitution de la Ve République souligne l'irresponsabilité du chef de l'État, sauf en cas de haute trahison, essentiellement l'intelligence avec l'ennemi en 58. Il faut attendre les années 2000 pour qu'une commission planche sur la réforme du statut du président de la République. Guy Carcassonne, largement inspirateur de la réforme, défendant notamment l'idée d'évincer un président qui aurait, je cite, « manqué au devoir de sa charge ».
Merci Chloé Leprince. C'était donc « Il était une fois un mot, 7h10 ».